Amen. Ah. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir une fois de plus vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dans la continuité de ce que je vous avais partagé la dernière fois, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est pas grave, je vous en voue pas. Ou pour ceux qui n'étaient pas là, je vous avais expliqué comment et pourquoi Dieu était et restera un Dieu de miracles. Amen. Et que cela, si vous vous souvenez bien, dépendait avant tout de notre capacité à y croire, autrement dit, de notre foi. Et pour illustrer ça, j'avais utilisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire dans la Bible d'une femme cananéenne qui ne lâcha pas Jésus d'une seule seconde, d'une seule semelle, tant que celui-ci réalise ce qu'elle avait envie au plus profond de son cœur. Et le désir au plus profond de son cœur, c'est que Jésus, c'était à l'époque que Jésus libère sa fille qui était possédée par un démon, ce que Jésus fit. Et en relisant cette histoire, bien après même vous l'avoir partagée, je l'ai relue et il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée et qui a inspiré ce que je vais vous partager ce matin. Cette phrase, elle est donnée, tu peux lancer le PowerPoint. Cette phrase, elle est donnée dans Matthieu 15, verset 28. C'est la réponse que fait Jésus à cette femme cananéenne à la fin de cette histoire. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit donc fait comme tu veux. » Et en lisant cette histoire, l'espace d'un instant, je me suis mis à moi à la place de cette femme cananéenne. Je me suis imaginé face à Jésus, avec un désir profond, au plus profond de mon cœur, une envie, quelque chose que j'avais à lui demander. Et je me suis posé cette question, et je vous la pose ce matin, que m'aurait dit Jésus comme il l'a fait pour cette femme cananéenne? Est-ce qu'il l'aurait, comme cette femme, dit « Geoffrey, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Ah, j'aimerais bien, amen. Ou est-ce qu'il aurait dit « Geoffrey, écoute, ta foi est trop petite, repasse. » Ou est-ce qu'il aurait dit « Geoffrey, ta foi est trop variable, tu as trop de choses à faire. » Bref, quel grade donnerait, dans ce cas-là, Jésus à ma foi? Et quel grade donnerait Jésus à votre foi? Et c'est ce qui m'a donné l'idée ce matin de vous proposer ce que j'appellerais l'échelle de la foi. Alors pas une échelle à grimper, quoique l'image est intéressante et on y reviendra à la fin, mais l'échelle comme l'utilisent les scientifiques. Je ne sais pas si vous avez déjà par exemple entendu parler de l'échelle de Richter. C'est une échelle qu'on connaît, ça a été une échelle donc inventée par M. Richter, un scientifique, pour évaluer le niveau, le grade d'un tremblement de terre. Alors vous allez me dire, je vous vois déjà venir, j'anticipe. Dire, oh Geoffrey, t'exagères, tu parles de la foi, t'embrayes sur les tremblements de terre, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ben, en fait, pas vraiment, enfin si, c'est un lien. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un tremblement de terre qui a un haut grade, un haut niveau sur l'échelle de Richter, c'est un tremblement de terre, on le voit à la télé, qui est capable de déplacer sur des dizaines, voire parfois des centaines de mètres, des parcelles de terre. Et Jésus ne nous a-t-il pas dit, en Marc 11, 22, en reprenant cette image, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, parcours des dizaines, centaines de mètres, ça c'est moi qui le rajoute, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. D'où le thème de ce que je vais vous partager ce matin, donc, comme je l'ai dit, l'échelle de la foi. Avec quelques questions sous-jacentes, quels sont les niveaux, les différents grades, différents niveaux qu'on peut imaginer dans la foi à quel niveau je me situe? À quel niveau vous situez? Ça, c'est vous qui répondrez vous-même à la question. Et surtout, comment faire pour atteindre le niveau suprême, le niveau le plus haut sur l'échelle de la foi, celui qui me permettra de dire, comme Paul un peu plus tard, qui a repris l'image de Jésus, de la montagne qui se ôte et qui se jette dans la mer, que l'on a une foi assez grande pour déplacer des montagnes. Amen. Alors, on y va. Et pour démarrer, vous commencez à peut-être avoir l'habitude, il me semblait important de définir avec vous ce qu'était la foi. Et c'est d'autant plus important que je relisais, et c'est vrai, j'en ai pris conscience tard cette semaine, qu'aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un « Est-ce que tu as la foi ?» Tout le monde va vous dire « Oui ». Alors, il n'a pas forcément la même foi que vous. Certains ont la foi en l'humanité, certains ont foi en la charité, certains ont foi en... Mais ici, il est bien question, bien sûr, d'avoir foi en Dieu à travers Jésus-Christ. Et il me semblait important quand même de le définir avant. Donc, quand on va parler de la foi, c'est bien la foi en Jésus-Christ. Et d'où cette définition qui dira donc qu'avoir la foi, ce matin en tout cas c'est comme ça que je dirais, c'est le fait de croire en Dieu à travers une adhésion de ce que dit sa parole, la Bible. Et que dit sa parole? Elle dit plein de choses. Alors vous allez voir ce matin, je vous ai pris un condensé, je vous ai pris cinq petites histoires qu'on va lire ensemble et qui va nous permettre de définir cinq niveaux de foi. Mais avant ça, La Bible dit surtout en matière de foi, ce qui est bon à savoir dans son origine, en hébreu, c'est qu'elle utilise deux mots pour parler de la foi. Deux mots différents, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, elle utilise le mot « émouna ». Et ce qui est intéressant dans ce mot, c'est qu'il est synonyme également, et on utilise sa racine pour parler de quelque chose de stable, de durable. Et l'autre mot dans le Nouveau Testament, plutôt, c'est le mot « pistis », en hébreu, qui, lui, est synonyme de confiance-fidélité. Et ici, à travers ces deux mots, on a déjà une première idée de ce que pourrait être quelqu'un qui a une grande foi. On dira d'une personne qui a une grande foi, bah, quelqu'un qui est stable dans sa foi, quelqu'un qui est durable, c'est-à-dire que ça peut durer sur le temps, ça dure dans le temps, quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui lui reste fidèle quoi qu'il arrive. Voilà une première piste peut-être qui nous laisse, enfin, qui peut nous penser de quelqu'un qui aurait une grande foi. Alors, on va détailler un petit peu après, comme je vous l'ai dit, sur les cinq histoires, cinq niveaux de foi. Mais avant, et pour conclure sur qu'est-ce que la foi, et avant de parler qu'est-ce que c'est d'avoir la foi et voir les différents niveaux, il me semblait aussi important de voir avec vous qu'est-ce que, aux yeux de Dieu, aux yeux de ce que dit la Bible, d'une personne qui n'a pas la foi. Et il y a un verset qui dit bien ça, on le retrouve dans Hébreux 11.6, et dans Hébreux 11.6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À qui ? À Dieu. » Car il faut, et c'est important, que celui qui s'approche de Dieu, qui fait un premier pas vers Dieu, croit que Dieu existe. Et dans ce cas, qu'il répondra positivement à ceux qui le cherchent. On y va ? Alors regardez, j'ai bien fait ça. Bon, c'est le seul moment, je me la pète un petit peu. Allez. Je vous ai fait donc... Alors c'est pas une échelle, c'est plus une pyramide. Mais vous retrouvez bien ici les cinq niveaux donc, de la foi que je vous propose de voir ensemble. Et le premier niveau... parce qu'il faut toujours un premier niveau, il faut une première marche, c'est ce que j'appellerais la foi sympathisante. Et il y a une histoire qui résume bien, qui explique bien ce que je pense être la foi sympathisante que je vous présentais ce matin. On la retrouve dans Actes 12, 5, 12 à 14. Et je vous invite à le lire ensemble, niveau 1 sur l'échelle de la foi sympathisante, Actes 5, 12 à 14. On le lit ensemble, si vous voulez bien. Par la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Mais personne d'autre n'osait se joindre à eux, alors qu'à Jérusalem, tout le peuple faisait leur éloge. Mais de plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. Alors, resituons un petit peu cette histoire. Ça me semble important de situer le contexte. On est à Jérusalem. Peu de temps après la crucifixion et la résurrection de Christ, en ce même lieu, puisque ça s'est passé autour de Jérusalem. Et on assiste à ce que j'appellerais, on en parlera un peu plus tard, enfin, dans la Bible, ils en parlent un peu plus tard, mais parlons, on peut le dire comme ça entre nous, à la naissance de la première église des premiers chrétiens. Et elle est représentée ici, ce mouvement, par le verset 12, il est dit, c'est représenté par les apôtres. D'accord, qui ont pris la suite de Jésus et qui se tenaient sous un lieu hautement symbolique, le portique de Salomon. Alors on peut les imaginer, hein, témoigner de leur foi, il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de gens qui les regardaient. Et ce qui est rigolo, c'est ce contraste entre les apôtres et les premiers chrétiens qui se tenaient, et on voit que d'ailleurs, tout de suite, ils étaient accompagnés par des premiers signes et des prodiges. Et ceux qui se tenaient à l'écart, il est bien dit au verset 13 qu'ils ne se tenaient pas avec eux, mais qu'ils les regardaient et qu'ils faisaient leur éloge. C'est-à-dire que même s'ils ne se tenaient pas avec eux, ils pensaient du bien d'eux. Et bien, ces personnes-là, ils caractérisent très bien ce que j'appellerais la foi sympathisante. La foi sympathisante, c'est peut-être la première fois que vous venez ici, peut-être la première fois que vous venez dans une église, ou peut-être c'est la deuxième, troisième fois, enfin vous faites une première démarche. La foi sympathisante, c'est le sentiment que vous avez au fond de vous quand vous venez les premières fois, et un sentiment qui vous pousse à revenir. Papa en parlait récemment dans une prédication, c'est aussi ceux par exemple que vous invitez à l'église qui viennent une première fois, qui disent « Oh là là, j'ai passé un bon moment, ils ont quand même quelque chose de particulier ces chrétiens ». Sans pour autant, dans un premier temps, aller plus loin, mais voilà, ils reconnaissent quelque chose. Et ça leur donne envie, en tout cas, d'avoir plus. Qu'est-ce que ça leur apporte, cette foi sympathisante ? Ben, c'est déjà un premier pas, une première démarche. Tout le monde ici, que l'on vienne pour la première fois, ou qu'on soit un peu plus chrétien depuis longtemps, on est tous passés par cet état-là, on a tous eu un premier contact, quelque chose qui s'est passé, un petit truc dans notre cœur, quand on est venu à l'église, ou quand quelqu'un nous a parlé de Dieu. Mais on voit malheureusement que que cette foi sympathisante, si elle est une première démarche, elle ne permet pas à ce peuple de se tenir avec les apôtres. Et donc, de bénéficier, j'ai envie de dire, pleinement de tous les signes, les prodiges, les bénédictions qui accompagnent les premiers chrétiens. Pour ça, il faut qu'ils passent un cap. Alors qu'est-ce qui les empêche et qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui si on a la foi sympathisante de passer un cap ? À l'époque, je pense, peut-être je me trompe, mais c'était la peur. Parce que on peut imaginer, hein, vous imaginez, on est quelques temps après la crucifixion du Christ et la résurrection. Il faut dire ce qui est, Jésus a été crucifié en partie par le peuple lui-même, donc peut-être que c'était un peu mal vu de traîner avec ceux dont le maître a été crucifié, enfin bref, la peur. Mais aujourd'hui encore, je pense que la peur fait partie des sentiments qui empêchent une personne qui a une foi sympathisante de passer un cap. La peur du regard des autres, il faut dire ce qui est, la société aujourd'hui, quand on est chrétien, on est un peu à part, on peut passer un peu pour les bizarres. C'est un peu peur, la peur du regard des autres, et puis plein d'autres peurs comme ça, liées peut-être à notre passé, etc., mais qui nous empêchent de passer un cap. Et pourtant, ça vaut le coup de passer un cap, et de passer au niveau 2. Le niveau 2, la foi qui sauve. Et il y a une histoire qui illustre bien ça, on la retrouve dans Jean 3, 1-16, vous allez voir. Niveau 2 sur l'échelle de la foi qui sauve, Jean 3, 1-16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et ressortir, renaître ? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair, de la chair est de chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et un peu plus loin, Jésus reprend et dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alors, resituons un peu l'histoire ici. On a un homme, Nicodème, qui, par rapport à ce que j'ai dit avant, en une fois de plus, caractérise, représente bien ce qu'est la foi sympathisante. On dit en effet, on voit en effet qu'il vient voir Jésus et qu'il en fait l'éloge. Il a dû voir, j'imagine, assister peut-être à ce que Jésus a fait d'un regard extérieur. Il a vu, il a remarqué, en tout cas il le dit ici, au verset 2, que Jésus a quelque chose de particulier. Il dit en effet, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Il reconnaît quelque chose. Et pourtant, on voit bien qu'il a cette foi sympathisante parce qu'il a du mal peut-être à passer un cap, il hésite. Il hésite, en quoi on le voit ? Parce qu'il a peur. Et cette peur, on la voit peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais toujours au verset 2, on dit qu'il est venu voir Jésus de nuit. À votre avis, pourquoi il est venu voir Jésus de nuit ? Parce qu'il avait certainement peur du regard des autres, que les autres disent « Comment ça se fait que tu vas traîner avec Jésus ?» Non, il y va donc de nuit pour qu'on ne le voit pas. Bref, il représente bien cette foi sympathisante et tout de suite Jésus le reconnaît, je pense qu'il a cette foi sympathisante, Nicodème, mais il embraye tout de suite, il ne cherche pas à dire « Merci pour t'as reconnu ça en moi ». Non, il embraye tout de suite, il dit au verset 3 « en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu ». Et à travers ça, Jésus définit ce qu'est la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui fait qu'un homme ne se contente pas simplement d'une foi sympathisante, mais pousse un homme à naître de nouveau. Et qu'est-ce que c'est de naître de nouveau ? Alors, on ne va pas faire comme Nicodème. On ne va pas dire, c'est retourner dans le ventre de ma mère et ressortir par voie basse. Pauvre mère, dans ce cas-là, j'ai vu mon fils sortir. 4,7 kg. Alors j'imagine un homme. Pauvre femme. Non, ici, naître de nouveau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est croire au si grand miracle. On l'a chanté, c'était le dernier chant. Ce grand miracle qu'a fait Jésus. Naître de nouveau, Jésus le dit, alors je vais le dire en d'autres termes, c'est croire au miracle de la croix. Croire que Jésus est venu, que c'est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nos fautes, et qu'il est ressuscité. C'est reconnaître notre état de pécheur, ce qu'on appelle la repentance, demander pardon pour ça, et ça doit se matérialiser un moment ou un autre, Jésus le dit en tout cas, par le passage par les eaux, par le baptême. Bref, c'est un nouveau départ dans une vie. En tout cas, Jésus, lui, en parle comme ça. Qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, plein de choses, parce que dès qu'on est de nouveau, dès qu'on a la foi qui sauve, ça y est, on se tient sous le portique de Salomon avec les apôtres. et donc on peut bénéficier pleinement de toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, de tous les signes, les prodiges. Amen. On vit pas seulement ça par procuration ou d'un point de vue extérieur en regardant, on le vit nous-mêmes. Et puis surtout, ce que ça apporte. Et c'est pour ça que j'ai laissé un peu plus tard et que je suis allé jusqu'au verset 16. Ça nous apporte la vie éternelle. C'est le seul moyen, cette fois, qui sauve, c'est le seul accès que l'on a au paradis, si je peux parler ainsi. C'est pas comme la chanson « On ira tous au paradis ». Non, par Jésus, on ira au paradis. Par la foi qui sauve, on ira au paradis. Amen. Alors, est-ce qu'on peut passer un cap ? Oui, parce que souvent, on va vous présenter la foi qui sauve comme une finalité. Ça y est, t'es sauvé. Mais en réalité, non. On va le voir après, j'ai sélectionné des histoires qui le prouvent bien. La foi qui sauve doit être un point de départ et non un point de fin. Parce que je reste persuadé, et je vais essayer de vous l'expliquer, qu'une foi forte, une foi grande, comme le mentionnait Jésus, c'est une foi qui serait capable de porter de grands fruits. Et c'est ce qu'on va voir ici. Et ça nous mène directement au troisième niveau, ce que j'appellerais la foi d'un disciple. Et il y a une histoire qui illustre bien ça. Elle nous est donnée dans Jean 21, 15 à 19. Niveau 3 sur l'échelle de la foi d'un disciple, Jean 21, 15 à 19, je vous invite à le lire ensemble. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais, toi, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Alors ici, pour situer l'histoire, on est donc quelque temps après la résurrection du Christ. Et le Christ, Jésus, est avec ses disciples et plus particulièrement ici sur cette scène, enfin dans cette histoire, avec Pierre, Simon-Pierre. On dira Pierre ici, en tout cas, l'apôtre Pierre. Et il lui pose trois fois la même question. Pierre, m'aimes-tu ? Alors on peut se poser la question, pourquoi Jésus insiste-t-il ? D'ailleurs, Pierre, à un moment donné, j'aime bien Pierre dans son caractère, en plus j'imagine un peu, il est agacé, il se dit, il ne comprend pas Jésus. Trois fois, je lui réponds il me pose la même question, trois fois, je lui donne la même réponse. Mais derrière cette question, m'aimes-tu, qui est posée trois fois, faisons le lien avec notre situation. Je pense que je suis intimement convaincu que Jésus pose une autre question sous-entendue à Pierre. Derrière cette question et cette insistance surtout, Jésus demande à Pierre, « Pierre, as-tu une foi en moi, une grande foi, une foi plus grande que celle des autres ?» Pas seulement une foi qui sauve, pas comme peut-être les autres apôtres l'avaient. Au verset 15, il est dit, « M'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Mais une foi encore plus grande. Et derrière cette réponse de Pierre, « Oui, Jésus, j'ai une foi grande, une grande foi en toi. » Jésus embraye sur une autre réponse, il dit, « Ben dans ce cas-là, si tu as une si grande foi en moi, sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes brebis, suis-moi. » Autrement dit, la foi d'un disciple, c'est une foi qui pousse un homme non pas à se contenter simplement de la foi qui sauve, donc du paradis peut-être, mais qui pousse un homme à servir Dieu, à entrer dans le service pour Dieu. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? Moi, je me suis mis en pensant à cette histoire un instant à la place de Pierre. Et je me suis dit quand même, Pierre, parce qu'il avait été pris à part, d'ailleurs on disait que c'était un peu le préféré, il a été mis à part. Mais j'imagine, moi à la place de Pierre, je me sentirais, c'est quand même Christ qui nous choisit. Et ce matin, il faut que vous preniez conscience qu'on est tous comme Pierre et que derrière cette foi qui sauve, et si Jésus nous pose à travers cette question aussi, il vous pose cette question, Jésus vous a choisi. C'est un honneur, c'est le Fils de Dieu quand même qui nous choisit nous, même si on n'est pas parfait, pour réaliser son œuvre qui, elle, est parfaite. Vous imaginez, quel privilège, j'ai envie de dire, d'être choisi. Donc, premier rapport, on est privilégié quand même. Jésus nous choisit. Et puis, deuxième apport, même si au verset 18, Jésus le sous-entend, ça ne sera pas forcément simple, parce que suivre Jésus, il ne faut pas croire, et le servir du moins, ce n'est pas toujours simple. Hein ? Il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi des moments un peu difficiles, et notamment ici, Jésus insiste, il dit, il y a des moments où toi, tu voudras aller à un endroit, et moi, je dirais que tu dois aller à un autre, ça ne te plaira peut-être pas, mais on a cette promesse, c'est que Dieu sera, quoi qu'il arrive, avec nous, jusqu'au bout. Amen. Alors, est-ce qu'on peut passer un cap ? Ben oui. Parce que ici, bon, je l'ai resitué, on est quelques temps après la résurrection de Christ, vous imaginez un petit peu Pierre, les disciples, ils devaient être un peu dans l'euphorie. Hein, wow, c'est incroyable, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vécu, ça s'est réalisé. Donc dans l'euphorie, des fois, dans la folie, on est bien, on est content, on se dit, bah oui Seigneur. Bon, on a oublié que Pierre, par exemple, juste avant la crucifixion, si vous vous souvenez, il renie quand même trois fois Jésus. Peut-être pour ça d'ailleurs que Jésus lui pose trois fois la question. Il dit, bon, t'es sûr ? Voilà, mais quand tout va bien, j'ai envie de dire, c'est peut-être facile de servir, de suivre Christ. Mais quand c'est un peu plus difficile, qu'en est-il de notre foi ? Est-ce qu'on a une foi assez grande pour résister à ça ? Et c'est le niveau 4, la foi que j'ai appelée la foi à toute épreuve. Et il y a une histoire qui illustre bien ça, elle est dans Actes 16, versets 22 à 31, et je vous invite à le lire ensemble. Niveau 4 sur l'échelle de la foi à toute épreuve, Actes 16, versets 22 à 31. Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Tiens, notre tremblement de terre. Qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là !» Ayant réclamé la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Il lui répondit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Alors pour resituer l'histoire ici, on retourne dans les actes comme la première histoire, on est dans la continuité. Et on a donc, on voit ici des hommes, des croyants, qui ont adopté la foi d'un disciple puisqu'ils ont décidé de suivre le Christ et de le servir. Et pour ça, on a ici deux hommes, Paul et Silas, qui parcouraient le monde, bon, ils n'allaient pas non plus bouger, pour témoigner de leur foi, pour que des personnes rencontrent le Christ et se convertissent. Et dans cette foi d'un disciple qu'avaient adopté Paul et Silas, on voit ici qu'on n'est plus dans ce qu'on a parlé de Pierre, dans l'euphorie, on est plus dans une partie un peu plus difficile parce que ce témoignage, le fait de témoigner leur foi, n'était pas forcément bien vu et pour Paul et Silas, en tout cas ici, les menait à être, un, battus et deux, jetés en prison, juste parce qu'ils témoignaient de leur foi. Mais ce que je trouve incroyable et beau, c'est que même si cette foi en Jésus, même si ce Jésus, entre guillemets, les pousse à se retrouver au fond d'une prison, leur attitude de cœur est incroyable, leur attitude de foi est incroyable. Elle est donnée au verset 25, il est dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas, même au fond de la prison, à cause de Dieu, ils continuaient à louer et à chanter pour Dieu. Et ça, c'est ce qui caractérise parfaitement, je pense, ce qu'on appelle la foi à toute épreuve. C'est une foi qui, aussi bien dans le service pour Dieu que aussi dans notre vie personnelle, nous pousse à garder les yeux fixés sur Dieu même quand c'est difficile. Et ça, c'est pas facile. Et je dirais que c'est le premier niveau peut-être qui, pour reprendre l'image de Paul lui-même, d'une foi capable de déplacer des montagnes. Et d'ailleurs ici on le voit au verset 26, comme par hasard, cette attitude de foi crée quoi ? Un tremblement de terre. L'image est incroyable. Alors qu'est-ce que ça apporte, cette foi à toute épreuve ? Eh bien, deux choses. Déjà, pour notre vie personnelle, je reste persuadé qu'une personne qui a une foi à toute épreuve, c'est une personne, on peut se dire sur le coup, c'est pas simple, mais qui va vivre de grandes choses. Et Dieu va envoyer de grandes bénédictions pour sa vie personnelle, de nouvelles expériences encore plus fortes avec Dieu. Elles sont représentées ici par ce violent tremblement de terre, mais mettez-vous un instant à l'image, à la place de Paul et Silas. Vous êtes au fond de la prison, vous louez Dieu, et puis vos liens, ce tremblement de terre, et tout s'ouvre. Vous imaginez, je reste persuadé qu'une personne qui a une foi à toute épreuve, ce que ça lui apportera dans sa vie personnelle, c'est de vivre des expériences, des bénédictions encore plus fortes avec Dieu. Et dans son service avec Dieu, une foi à toute épreuve, c'est une foi qui porte énormément de fruits. Il est dit ici, moi je me mets plus à la place de Paul et Silas, mais à la place du prisonnier. Moi la prison elle s'ouvre, qu'est-ce que je fais? Je m'enfuis, je me dis ça y est, je suis libre, je vais me cacher. Non, mais ici, un, les prisonniers, ils écoutaient Paul et Silas, c'est bien dit, prier, chanter les louanges, et quand tout s'est ouvert, ils sont restés avec eux. Une foi à toute épreuve, c'est une foi dans notre service pour Christ qui va porter encore plus de fruits, qui va amener encore plus d'âmes, de personnes à Dieu. Le geôlier aussi a été touché ensuite, on le voit, et si on lit l'histoire, toute sa famille d'ailleurs va être... Donc vous voyez le nombre d'âmes sauvées juste parce qu'ils ont gardé cette attitude de foi, parce qu'ils ont adopté cette foi à toute épreuve. Et il reste un dernier niveau. Peut-on passer un cap? Oui, et j'en ai trouvé un, c'est une histoire qui illustre bien ça, c'est le haut sommet, c'est la foi inébranlable. Et il y a une histoire qui illustre bien ça, elle est dans Genèse 22, 1 à 12. Je vous invite à la lire, ensemble. Niveau 5 sur l'échelle de la foi inébranlable, le plus haut niveau. On va le lire ensemble. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, tu vas au pays de Moria et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui ses deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour le sacrifice et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice, le chargea sur son fils Isaac, il prit le feu et le couteau, et tous les deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour le sacrifice, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel, disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit sa main et saisit le couteau pour immoler, tuer son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alors reprenons un petit peu cette histoire. Et reprenons la chronologie de cette histoire, essayons un peu d'analyser ce qui se passe. On est donc ici avec Abraham, qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi, et je pense que c'est pas pour... Il y a bien une raison, cette histoire du moins l'illustre bien. Et Dieu lui demande quelque chose. Déjà il l'appelle, et ce qu'on voit, quand Dieu appelle Abraham, que dit Abraham? Il dit « me voici ». Quand Dieu appelle, en tout cas, Abraham répond, il se tient prêt. Et que lui demande Dieu? Il lui demande de prendre son fils, son unique fils, et de l'offrir en sacrifice, d'aller le tuer pour lui. Imaginez un instant cette scène. Alors moi maintenant, en plus qu'il y a un fils, je m'imagine. Je me suis mis à la place d'Abraham, je me suis dit, si Dieu me demande ce genre de choses, je vais dire, non. Je vais faire semblant, un, soit j'ai pas entendu, soit je vais, bon, si la nuit d'avant il a pas dormi, qui m'a cassé les pieds. Non, je déconne. Non, mais je me mets l'image un instant, mon fils, vous imaginez un peu là, en plus si c'était son seul enfant, le déchirement que ça a dû créer en lui. Et pourtant, Abraham, on voit au verset 3, il est fidèle à Dieu. Il obéit. Il se met en marche, même si ça peut paraître terrible. Et on voit qu'il se met en marche combien de jours? Au moins 3 jours. Vous imaginez un instant, mettez-vous à la place d'Abraham dans sa tête, ce qu'il a dû faire. Pendant 3 jours, il a dû cogiter et se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? On m'a demandé d'aller tuer mon fils. Et pour autant, il reste fidèle, il reste patient. Et arrivé à un moment donné, on voit au verset 7, c'est plus Abraham qui se pose des questions, c'est Isaac. Isaac, il se dit, bon, père, on a pris le bois, tout ça, on va les sacrifier, mais t'as oublié la bête. Qui c'est qui va être sacrifié? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est l'agneau? Et regardez la réponse d'Abraham. Il aurait pu dire, bon, c'est bon, j'arrête. En fait, c'était bête toi, mais non, il dit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour le sacrifice, mon fils. Dans cette situation, il garde confiance en Dieu. Et puis, au moment de passer à l'acte, j'ai envie de dire, de tuer, ce qui devait être le plus gros déchirement, vous imaginez, eh ben, on voit qu'au verset 11, quand l'ange du Seigneur met fin un petit peu à ça, parce qu'il n'allait quand même pas permettre que son fils soit tué, on voit que même dans le moment le plus difficile, Abraham est toujours à l'écoute. Quand l'ange de l'Éternel lui dit « Abraham, Abraham, Abraham », Abraham dit « Me voici ». Bref, ici, la foi inébranlable, c'est la foi, pour reprendre la définition que je vous ai donnée au début, la foi d'Emouna de Pistis. C'est la foi qui pousse un homme, même dans une situation les plus difficiles, ou même dans les situations les plus faciles, à toujours se tenir prêt, à toujours obéir, à être fidèle, patient, confiant et à l'écoute de Dieu dans toutes les situations de sa vie. Amen. Alors, qu'est-ce que ça apporte quand on connaît toutes les bénédictions qu'a eues Abraham? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Abraham, non seulement cette attitude de foi lui a permis d'être lui béni, sa famille, mais aussi ses descendants, parce qu'on dit que c'est le père de la foi, mais c'est aussi le père des nations, sa descendance. Donc imaginez, si nous avons une foi inébranlable, ça va nous impacter, nous, notre entourage, l'Église, mais aussi nos descendants. Ça a quand même un apport fort. Alors voilà, je suis arrivé aux 30 minutes, c'est le moment de conclure. Et pour conclure, je voulais pas être trop long. Comment conclure ? Pour conclure, il me semblait important de répondre à une dernière question avec vous. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes. Moi, je vous rassure, je ne suis pas là pour vous culpabiliser ou faire... Je suis loin d'être à la fois inébranlable, même à la fois à toute épreuve. Demandez à mon épouse, dès qu'il y a un problème à la maison, je serai capable de tout mettre en l'air, tout oublier. Tout tourne autour de ça. Donc, je peux vous dire que j'ai encore du mal. Je ne sais pas à quel niveau vous situez, mais il y a une question à laquelle je peux répondre, quel que soit le niveau auquel on est, c'est comment passer un cap dans ma foi. Parce qu'une échelle, pour reprendre l'image, c'est fait pour monter. Mais avec une échelle, on monte et on descend, hein. D'accord ? Donc des fois, on peut aussi varier. Mais une échelle, avant tout, c'est fait pour monter et atteindre, d'un point de vue l'échelle d'un homme, atteindre des sommets, des endroits qui semblent inaccessibles. Et surtout, une échelle, c'est fait pour monter, alors montons. Et il y a un verset que j'aime bien, un dernier que je vous citerai dans Romains 10, 17. Il dit que la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Du coup, trois points découlent rapidement pour passer un cap dans ma foi. Premièrement, lisons la Bible. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, alors, moi je suis mathématicien, hein, je fais la connexion logique, ma foi viendra et grandira en écoutant la parole du Christ. Et la parole du Christ, on l'entend comment ? Avant tout, en lisant la parole. Lisons la Bible pour écouter ce que a à nous dire celui qui est à la base de notre foi. Alors j'ai bien aimé l'image la semaine dernière de Jean-Raymond, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que pour certains, et pour moi aussi, la Bible, parfois, ça peut paraître, on peut avoir l'image d'un grand océan. Il y a plein de choses, on ne sait pas par quoi commencer, par où aller. Ça peut nous donner quand même envie de plonger dedans. Mais si on plonge dedans, vous avez déjà plongé dans la mer, ouvert les yeux, on ne voit pas grand-chose, ou du moins, c'est assez flou. Donc, on met des lunettes. Et quand on met des lunettes, on voit un peu plus clair. Mais si on veut voir de belles choses, il faut bien aller en profondeur. J'ai bien retenu ce que tu nous as dit, Jean-Raymond. Donc je prie et priez, même si vous, des fois vous avez la sensation, de quand vous lisez la Bible, de ne pas savoir par où commencer, ou parce qu'on a appris à lire, hein, comme on lit un livre, mais la Bible est un livre si particulier. Priez, demandez à Dieu quand vous lisez votre Bible qu'il puisse vous donner des bonnes lunettes de plongée pour bien aller au fond et lire et voir les choses que peut-être vous n'imaginez pas. Et deuxième point, partagez du temps avec ceux qui ont une foi forte pour écouter ce qui alimente leur foi et pourra contaminer la nôtre. Parce que la parole de Christ, on peut aussi l'entendre à travers ceux qui la vivent. Et je pense que vous avez tous vécu ça à un moment donné, si vous êtes tous ici ce matin, c'est que quelqu'un vous a partagé sa foi. Donc des fois, même avant de lire la Bible, ce qui va nous impacter, c'est d'écouter ceux qui ont une foi forte, et c'est ce qui va nous donner envie aussi parfois de passer un cap dans notre foi. Nous, on l'a vécu, enfin, à la maison, Pauline, c'est comme ça aussi, que sa foi, elle est passée de la foi sympathisante à foi qui sauve comme ça, en écoutant dans les groupes de maison, par exemple. Quand vous venez dans les groupes de maison, vous entendez les témoignages, le partage des autres, et c'est ce qui vous pousse à passer un cap. Et puis dernier point, prier. Prier, demander à Dieu qu'il nous fasse vivre des expériences nouvelles avec lui qui boosteront notre foi. Parce que, et je conclurai là-dessus, quand la dernière fois je vous ai parlé des miracles et que je vous ai parlé des, je vous avais donné trois exemples de miracles qu'on avait vécu avec notre épouse à partir de début septembre, ces trois miracles, je ne sais pas si vous, je l'avais dit, mais si vous vous en souvenez, ont suivi une démarche qu'on a eue avec notre épouse. On s'est dit, fin août, on a prié comme ça à deux, on a dit, Seigneur, c'est bien ce qu'on vit avec toi, mais on veut plus. Alors viens, Seigneur, et montre-nous, donne-nous plus, fais-nous vivre de nouvelles expériences qui nous feront booster notre foi, quitte à ébranler notre foi. Alors des fois, ça fait peur de poser ce genre de questions, enfin de se dire ce genre de choses, parce que quand on dit ébranler notre foi, oula, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais on l'a vu, les bénédictions sont encore plus grandes. Amen. Voilà, ce sera ma conclusion. On va prier. Je vous invite à la limite à rester à votre place, à baisser la tête et juste au fond de votre cœur ou même si vous avez été interpellé par ce message ou si vous avez envie de passer un cap dans votre foi, à peut-être poser la main simplement sur votre cœur et puis prier avec moi et puis avec nous tous ensemble pour que le Seigneur puisse vraiment nous faire en sorte que l'on ait une foi forte, une foi capable de déplacer les montagnes, une foi capable d'obtenir ce qui nous permettrait d'obtenir ce que l'on veut, comme cette femme cananéenne. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ce matin, Seigneur, et te remercier. Parce que, Seigneur, si nous sommes tous là, Seigneur, c'est parce qu'à un moment donné, tu as suscité en nous, Seigneur, un désir de te rencontrer. Tu nous as tous fait passer, Seigneur, par la foi sympathisante. Seigneur, je te prie que si des personnes se sentent vraiment interpellées en disant, voilà, Seigneur, je suis au niveau de la foi sympathisante, peut-être que j'ai un cap à passer, le prochain, c'est la foi qui sauve, que tu puisses vraiment, Seigneur, toucher ces personnes, faire en sorte vraiment qu'elles puissent voir qui tu es, qu'elles puissent ressentir ce que tu as fait, Seigneur, sur la croix, et vraiment prendre conscience, Seigneur, de ce cadeau magnifique que tu nous as fait, ce cadeau gratuit, ce don à la croix qui nous offre, Seigneur, la vie éternelle, qui nous permet vraiment, Seigneur, de vivre pleinement les bénédictions. Seigneur, je te prie que ceux qui ont vraiment cette foi qui sauve au fond d'eux, Seigneur, et qui se disent, c'est vrai, peut-être que je suis resté à cette étape-là, Seigneur, puissent vraiment aussi prendre au fond de leur cœur, sentir, Seigneur, ce privilège qu'ils ont, Seigneur, d'avoir été choisis pour toi, Seigneur, et que derrière ça, Seigneur, tu désires qu'ils puissent te suivre, qu'ils puissent te servir, qu'ils puissent faire en sorte, Seigneur, que ce ne soient pas les derniers, mais les premiers qui puissent, Seigneur, témoigner de leur foi, que d'autres personnes puissent, à travers eux, rencontrer le Christ, Seigneur. Seigneur, je te prie également, Seigneur, pour ceux qui diraient, voilà, Seigneur, je te suis, mais c'est difficile, Seigneur. C'est pas facile aussi bien, des fois, peut-être dans le service, mais aussi dans ma vie personnelle. Que tu puisses faire en sorte, Seigneur, qu'ils aient une foi à toute épreuve. Qu'on puisse avoir, parce que je me mets dedans aussi, Seigneur, une foi à toute épreuve. Que quand c'est difficile, Seigneur, un peu comme Paul et Silas, ils puissent garder les yeux fixés sur toi et que, comme pour ces hommes, Seigneur, tu puisses venir ébranler leur vie, mais dans le bon sens, Seigneur, en leur offrant plein de bénédictions, Seigneur, plein d'expériences nouvelles avec toi, Jésus. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous faire en sorte qu'un jour, Seigneur, comme Abraham, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avoir une foi inébranlable. Que, Seigneur, même dans les plus grandes difficultés, Seigneur, les moments les plus durs, nous puissions garder, Seigneur, des yeux fixés sur toi avec cette foi, Seigneur, d'Emouna et de Pistis, cette foi très forte, très grande en toi, Seigneur. Et, Seigneur, surtout, une foi, Seigneur, qui fera en sorte que, par nous-mêmes, Seigneur, notre famille, nos amis, l'Église, tout ce qui nous entoure, Seigneur, soit impacté et béni, Seigneur. Que ça puisse couler comme l'huile sur la barbe d'Aaron, Seigneur. Que ça puisse couler, Seigneur, et faire en sorte que autour de nous, Seigneur, les bénédictions pleuvent par notre attitude de foi. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Amen. Amen.